après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de tennis, de Rafael Nadal et du Masters 1000 de Madrid. La saison de terre battue bat son plein, on a eu les premiers gros rendez-vous avec évidemment Monte Carlo où Tsitsipas s'était imposé face à Casper Ruud. Ensuite, on a vu Barcelone avec la victoire de Ruud sur Tsitsipas. C'est la deuxième Masters 1000 du côté de Madrid en altitude. On retrouve tout le monde, sauf Novak Djokovic. Et ici, pendant cette petite dizaine de minutes, nous allons discuter de Rafael Nadal. C'est lui, évidemment, qui attise toutes les convoitises. On ne parle quasiment que de lui. Tout le tournoi ne tourne pas quasiment qu'autour de lui. Bref. Évidemment, parce que on a énormément de... pas d'inquiétude, mais d'interrogation vis-à-vis de Rafa. On ne sait pas quel est son niveau de tennis, on ne sait pas quel est son niveau physique, combien de temps il peut durer, son implication, est-ce que le physique va tenir lui-même, quelle charge il peut supporter, combien de matchs il allait gagner, si même il allait pouvoir gagner un match. Donc bref, évidemment, on était parti dans la folie, et là, on a quand même eu quelques petites réponses. Nadal avait pour son premier tour affronté Darwin Blanche, alors qu'il n'avait pas vraiment d'intérêt ce match, hein, puisque c'est un jeune de 16 ans qui a pris 1-0 et on n'a rien pu voir. Mais il y avait au deuxième tour quand même ce match face à Alex de Minaur, qui était une revanche hein, de ce qu'on avait eu 10 jours plus tôt du côté de Barcelone. Et ça allait pouvoir, même si je pense que du côté de Madrid, ça range pas forcément de Minaur, parce que cette vitesse et ce rebond, cette difficulté de contrôler la balle ne plaît pas de Minaur, mais il faut pas oublier non plus que Madrid, c'est quand même le tournoi sur terre battue qui réussit le moins à Rafael Nadal, hein, puisqu'il ne l'a remporté que 5 fois en tout, donc 4 fois sur terre battue. Le match livré par Rafael Nadal est plutôt très bon. Enfin, plutôt très bon. Plutôt très bon par rapport à ce qu'il avait fait il y a 10 jours. On a vu un Nadal un petit peu plus incisif, avec un petit peu plus de longueur de balle, même si je pense, et je vais revenir encore avec ce qui s'est passé aujourd'hui face à Pedro Cachin, c'est une des interrogations. Au-delà du physique, c'est voilà, dans la qualité de tennis, on a vu que sur certains enchaînements, quand... il arrivait à bien lâcher ses coups et que la balle partait bien, bah tout de suite, en fait, tu retrouves Nadal. Et dès que tu le sentais un petit peu en confiance, un petit peu relâché, qu'il était un petit peu devant au score, il retrouvait de la longueur de balle et tout de suite, il faisait mal en coup droit long de ligne. Il a sorti des revers croisés extrêmement intéressants, donc il y avait des phases quand même qui étaient meilleures. Il servait plus fort au service aussi, donc ça veut dire qu'il a peut-être pris un petit peu confiance en ses abdominaux aussi, en la capacité de son corps peut-être à enchaîner et à prendre de la charge. Donc voilà, il s'impose en 2-7 face à de Minaur, plutôt rapidement, même si le premier set, ça dure 2 heures en tout. Et aujourd'hui, on avait ce match face à Pedro Cachin, qui est pour moi, je pense, un hyper bon résumé, parce qu'on a vu un petit peu tout de Rafa. Donc ça a été un match dur, long, plus de 3 heures de jeu. Un premier set... très bien maîtrisé par Nadal, avec un Pedro Cachin qui faisait pas mal d'erreurs, et un deuxième set où Nadal se fait tout de suite double breaké. On le sent avoir une petite baisse physique, et tout de suite, ce qui accompagne cette baisse physique, c'est une perte complète de longueur de balle chez Rafa, et évidemment avec ensuite pour l'adversaire une plus grande capacité à faire déplacer Nadal droite-gauche et à être facilement en fait à l'intérieur du court. Parce que Nadal, on le voyait même jouer milieu du carré de service en coup droit, ça sortait pas du tout. Et voilà, et les seuls points qu'il arrivait à gagner, c'était un peu sur, on a envie de dire, sur l'aura Rafael Nadal. Voilà, la fin du set, Pedro Cachin, il doit la gagner 10 fois et il se retrouve à jouer un tie-break un peu bourbier, voilà, qui est pas folichon, mais... il fait des doubles fautes et tout, et on sent qu'il y a cette chape de plomb de jouer Rafael Nadal qui le prend. Et il se bat ensuite Cachin, mais on a l'impression qu'il a jamais voulu faire un maximum mal à Rafa, quoi. Et dans la dernière manche, l'interrogation, c'était quelle allait être la capacité de Nadal à résister physiquement et à engager un combat physique. On le voit très clairement que dans les matchs, il a du mal à maintenir une intensité physique constante et une intensité de concentration aussi constante. Parce qu'à la fin du premier set, le premier set il dure une quarantaine de minutes, il a tout de suite une baisse, mais c'est pas forcément une baisse physique, contrairement à la fin du deuxième set où là physiquement on a l'impression qu'il pioche plus, il y a une baisse de concentration. Parce qu'il faut pas oublier aussi que depuis novembre 2022, il a joué une quinzaine de matchs. Donc évidemment qu'il a pas cette habitude-là, que ce sont des automatismes qui vont revenir et qui vont retrouver, et des matchs comme celui de Cashin lui apporte, je pense, énormément de réponses, parce qu'il s'est situé. Voilà, j'ai pu jouer 3 heures, quand même, à intensité élevée, mon corps a pris. Sur des séquences de jeu, on l'a vu, c'est quand même 10 000 fois mieux qu'à Barcelone, sans être exceptionnel, je vais pas m'extasier, on n'est pas sur le Rafa d'antan, clairement pas. On est sur un Rafa diminué, on est sur un Rafa qui, sur certaines courses, va être un petit peu en retard. Sur certaines balles, il va pas faire de décalage coup droit. Il va faire un revers, il va soit tenter un revers long de ligne, ou alors un revers croisé profond. Voilà, c'est aussi d'autres coups qu'il apporte. Il s'adapte à son corps, et nous, il faut aussi qu'on mette nos attentes en face de ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas retrouver le Rafa de 2008, de 2010 qui court à 110 000 à l'heure, qui joue, qui est injouable sur terre battue et qui ramène tout. Non, là voilà, c'est un Rafa qui joue sur aussi son intelligence de jeu, qui s'est déplacé, qui a progressé de façon absolument exponentielle et qui est juste fantastique à voir, à trouver des zones très croisées où il sort son adversaire même quand il est en difficulté, à profiter aussi du fait. C'est con, hein, mais je veux dire, sur les 3 matchs qu'on a vus, le nombre de points qu'ils gagnent parce que les mecs sont stressés un petit peu en fin de set et tout, et ben ouais, voilà, ils profitent du fait que les mecs qu'ils affrontent maintenant et qui sont jeunes l'ont vu jouer et c'est potentiellement leur idole. Donc il y a des points quand même qu'il a gagné là-dessus. Alors ça a ses limites parce que quand tu vois des Sinner, des Alcaraz et tout, tu te dis que ça peut pas le faire. Quoi tirer de ces matchs? Je pense que physiquement, c'est quand même plutôt rassurant. Il avait complètement coupé face à Dominor dans le deuxième set. Là, il s'est arraché face à Cashin. À voir comment il va récupérer. Demain, il va jouer l'EHK, qui est un jeune qui joue très tendu, très puissant. Pas du tout spécialiste de terre battue, mais qui va encore lui proposer une autre opposition. Donc il va avoir plein de styles de tennis, et là faut se rendre compte qu'il gagne 3 matchs de suite quand même, donc ça c'est quand même vachement cool pour la confiance qu'il peut accumuler, les repères tennistiques qu'il prend. Comme j'ai dit, Madrid, c'est de la terre battue, oui, mais c'est une terre battue très particulière. Je pense qu'on aura encore plus de réponses à Rome, mais là voilà, il est déjà en 8ème de finale de ce tournoi, il va jouer un LHK qui est pas du tout spécialiste. Au vu de ce que Rafa a présenté, il va quand même poser des problèmes. Et moi, je trouve que sur certaines séquences, c'est pas tout le temps, mais il y a du mieux quand même. Il y a des coups droits long de ligne. On l'a vu plein de fois arriver à déstabiliser Cashin en coups droits long de ligne profond. Voilà, je trouve qu'en coups droits croisés, quand il va chercher le revers, il joue évidemment beaucoup trop court, beaucoup de fois. Il va être pris sur certains replacements, mais voilà, il y a du mieux. Il progresse. Et comme je dis, son objectif, c'est Roland-Garros, mais c'est aussi les JO, donc c'est toute une construction qu'il est en train de mettre en place, et déjà le fait que le corps ne pète pas, c'est déjà une victoire absolue. Alors rien n'est dit que ça cassera pas à un moment, mais voilà, on voit quand même du mieux, on le sent concentré, il a besoin aussi, on sent que sur le terrain il a besoin de retrouver sa grinta, ses moments chauds, il s'encourage dès le début du match comme un lion. Voilà, on sent qu'il est en train de retrouver des automatismes, donc petit à petit, ça revient, on le sait. Rafa, il a toujours besoin d'être une machine qui se met en route. Et oui, à l'époque, on n'avait pas l'impression qu'il y avait de mise en route sur terre battue, parce qu'il avait une marge de folie. Donc même quand il jouait mal, il gagnait, il explosait tout le monde en 2-7 dans les premiers tournois. Il arrivait plutôt prêt, et ça passait. Là, on sait, voilà, son objectif, c'est Roland-Garros. Ça va mettre du temps à se mettre en place, ça met du temps, mais voilà, par rapport à Barcelone, là, ce qu'il a présenté aujourd'hui, c'est quand même bien meilleur. Et le match qu'il fait face à Dominor était quand même bien meilleur. Donc voilà, sur une terre battue madrilène qui n'est pas sa terre battue, qui est le tournoi qui lui réussit le moins pour des tournois de reprise, c'est très bon. Voilà, il y a du beaucoup mieux. Mais évidemment, j'entends aussi les critiques. Évidemment que quand je vois Nadal jouer, je me fais pas trop d'illusions. Et que quand je vois ce que déplace sur un terrain des Alcaraz, ce que dégage de sérénité un Sinner sur une surface qui n'est pas la sienne, même un Djokovic qui va être, je pense, très très opérationnel à Rome. Je sais pas quoi penser d'un Rune, mais quand je vois aussi, pas sur une surface terre battue comme Madrid, mais ce que Tsitsipas fait sur des terres battues dites lentes, où on l'a vu très performant aussi, voilà, il y a quand même un tas de joueurs qui vont être très très intéressants et potentiellement très embêtants pour Rafa. Et le fait qu'il ne soit pas tête de série à Roland sera un facteur essentiel, bien évidemment. Mais voilà, moi je note quand même des progrès. Et il faut, je pense, les mettre en relation de qu'est-ce qu'on attend de Nadal. Si on attend que Nadal gagne Roland-Garros, évidemment, avec le niveau de jeu qu'il montre là, il ne peut pas. Mais est-ce qu'il va passer des tours? Et est-ce qu'il va, lui, s'offrir ce qu'il veut? C'est-à-dire être au minimum, pouvoir jouer des matchs dans une condition décente et pouvoir défendre ses chances et potentiellement mourir sur le court à Paris. Là, avec ce qu'il montre, oui, il sera en capacité de le faire. Voilà. Alors, évidemment que s'il tire à Alcaraz au premier tour, ça sera terrible. Enfin, ça sera terrible, oui et non, parce que si jamais il perd face à Alcaraz, l'histoire serait belle, mais voilà, il va se donner des chances, c'est certain, il va y avoir des opportunités, et comme je le dis, il y a encore voilà, des jours, des entraînements, des matchs pour que tout ça rentre et Rafa tente de revenir à un niveau un petit peu supérieur. Mais voilà, je sais, j'ai été potentiellement élogieux dans les premiers pas, mais c'est parce que je note une progression quand même, là, voilà, sur les derniers matchs, voilà, il y a quand même plus de déplacements, et physiquement, le corps a tenu, mais à une intensité correcte, avec des sautes de performance physique, je l'entends bien. Et les reprises d'appui sont parfois compliquées, mais on l'a vu aujourd'hui, sur les amortis, c'est testé, il y allait à chaque fois. Donc voilà, il y a aussi, lui, il progresse, on le sait qu'il a besoin tout le temps d'être assuré, c'est un éternel anxieux. Voilà, tout ça se met en place, c'est un processus, et puis voilà, on va voir demain face à l'HK, je pense qu'on aura, voilà, chaque match va nous apporter des réponses, voilà, et s'il passe l'HK, il aura quand même gagné 4 matchs en Masters 1000 sans en ayant joué pendant 6 mois, ça voudra quand même dire quelque chose, donc voilà, j'espère que demain tout se passera bien pour lui, même s'il perd, que voilà, il puisse jouer un maximum, passer un maximum de temps sur le court et que surtout le corps ne casse pas. Voilà, je voulais parler un petit peu de Nadal et de Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.